voix nue. Cette semaine, Frédéric Saïs rencontre Claude Angéli. Ce soir, le canard enchaîné face aux mutations de la presse.
Bonsoir Claude Angéli.
Bonsoir.
Nous vous retrouvons pour un quatrième épisode. Vous nous avez raconté votre enfance en temps de guerre, votre adhésion au Parti communiste, votre retrait, puis d'une certaine manière l'âge d'or du canard enchaîné avec toutes ces révélations successives qui ont fragilisé les pouvoirs. Mais la presse est entrée aussi dans une période de mutation, notamment avec l'émergence du numérique. Et là, vous êtes une exception, pas vous-même, mais le canard enchaîné. Votre présence numérique se réduit quasiment à zéro. Vous avez un site qui montre juste la page de une du journal de la semaine, mais aucun article en ligne, pas d'abonnement pour consulter le journal sur Internet. C'est à rebours, évidemment, de tous les journaux qui ont investi les écrans. Quelle place, vous, Claude Angéli, vous avez eu dans ce choix singulier ?
Non, si vous voulez, dès que ça s'est présenté, on était tous d'accord, on ne peut pas, un jour de semaine, publier une information sur la toile, alors qu'on prépare un journal et que nous continuons à vendre un journal papier. C'est pas une hostilité aux méthodes modernes. On ne peut pas faire les deux. Je crois pas qu'on puisse être important sur la toile et sortir un numéro qui va être une réussite. Alors c'est vrai que des fois, on a une bonne information et puis les autres vont la voir, tant pis.
Oui, si vous avez une information le jeudi, alors que vous bouclez le mardi suivant, ça laisse beaucoup de jours pour que d'autres sites sortent cette information et que vous fassiez griller, comme on dit.
Oui, mais ça n'arrive pas toujours. Moi, j'avais cette position, les autres l'avaient aussi. Maintenant, est-ce qu'ils sont en train de réfléchir à changer? Je ne sais pas.
Il y avait aussi des craintes de piratage si jamais vous mettiez le journal disponible sur abonnement en ligne, en numérique?
Non, mais qu'il y ait, disons, des abonnements numériques, peut-être à l'étranger ou des choses comme ça. Je sais que ça se prépare peut-être pour que des gens puissent, à l'étranger, bénéficier de la sortie du canard. Mais on ne peut pas être un journal comme l'Express, Le Monde, Le Point ou d'autres qui sortent sur leur site une information, un interview, et en même temps préparer un bon numéro. La preuve, c'est que tous les journaux que je viens de citer, eh bien, ils se flattent toujours du numérique, parce que c'est une façon de ne pas parler de sa vente papier. Or, pour nous, le navire amiral, c'est le journal papier. On continue à gagner de l'argent. Alors, c'est vrai qu'on peut dire, bon, mais ils s'encroûtent un peu. Si on s'encroûte sur l'information, oui, il faut dire. Mais ce n'est pas le cas. Donc, pourquoi changer un procédé qui fait que vous gardez pour vos lecteurs, le mercredi, l'essentiel. Et si vous sortez avant une de ces informations, vous en dépossédez pour le mercredi. Et chaque mercredi se pose la question pour le canard de le remplir, de remplir ses pages avec des choses intéressantes. Et donc, on peut manquer de sujets. Il faut que chaque partie du journal, que ce soit les chroniques, que ce soit l'information, que ce soit la page 2, la une, tout ça, que ce soit novateur.
Il y a eu des débats en interne sur cette place du numérique?
Non, des bavardages, mais il va dire, bon. Non, les gens sont assez d'accord sur ça. Un jour, peut-être, ils ne seront plus d'accord, mais je me demande comment on ferait.
Quel regard portez-vous, Claude Angéli, sur Mediapart, ce média 100% en ligne d'enquête, qui ne fait pas dans la satire, comme le canard enchaîné, mais qui revendique de sortir des affaires, et à qui l'on doit, par exemple, d'avoir fait tomber Jérôme Cahuzac, l'ancien ministre du budget socialiste?
Excellente création. Et c'est bien qu'il y ait une concurrence sur l'information, sur les enquêtes. Ça a réveillé un peu la presse. Plus on est de fous, plus on rigole. Une affaire où le canard était seul, c'est pas bon pour le pays où ça se passe. Prenons une affaire au hasard. Les appartements de Juppé. On a sorti 5 dossiers sur les appartements de Juppé. Si on n'avait pas été relayé, que la presse s'est jetée dessus, s'est intéressée, a apporté des choses nouvelles et tout, a révélé comment le procureur allait obliger Juppé à utiliser son appartement de fonction et à lâcher l'appartement qu'il avait rue Jacob, ça n'avait plus le charme d'une opération révélée par le canard. Donc, Mediapart ou d'autres font des révélations, ça nous aiguillonne un peu, l'émulation est très bonne, vive la concurrence.
Il y a une relation d'émulation, de concurrence, parfois de rivalité?
Oui, oui, il peut y avoir ça.
Par exemple?
Cahuzac. Ils ont sorti l'affaire.
Et vous ne l'avez pas vu venir?
Oh, je crois qu'on l'a mal vu venir. C'est une bonne leçon.
Vous n'y avez pas cru, collectivement?
Joker.
Vous savez que les jokers sont interdits dans la voie nue.
Bon, alors je retire le joker, mais je veux dire, disons que ce qu'on a pu dire à l'époque n'a pas été utile pour la réalisation d'un bon numéro sur Cahuzac, et qu'on a été pris de court par Mediapart.
Sur le numérique, cette fois-ci pour obtenir des informations, comme outil de travail pour vous, il y a beaucoup de journalistes qui craignent d'être espionnés en ligne, qui utilisent maintenant des boîtes à lettres anonymes, cryptées, pour recueillir les renseignements, ou des fichiers qu'on appelle les leaks. Est-ce que vous ne craignez pas, vous, d'être trop artisanaux dans votre manière de procéder?
Oui, mais nous, on travaille dans le renseignement humain et pas dans le renseignement technologique. Vous savez que le père Bush, le père de George Bush, qui a été patron de la CIA, a dit « Nous avons failli, nous sommes trompés, nous n'avons pas vu venir la révolution au Portugal, le départ du Chad, tout ça, les essais nucléaires au Pakistan et en Inde, parce que nous nous fions au renseignement technologique et nous avons abandonné le renseignement humain. » Enfin, il parlait en anglais, naturellement. Et c'est la même chose. Un journaliste qui, le cul sur la chaise, va chercher sur Internet des choses qui sont déjà parues et tout, pour réaliser un article, c'est pas bon. Il faut innover.
Mais grâce à ces boîtes à lettres cryptées, par exemple, ça peut susciter des vocations chez les lanceurs d'alerte qui vont transmettre des documents de manière totalement sécurisée, ce qui est moins le cas, évidemment, sur un téléphone non crypté ou par un courrier.
Oui, c'est vrai. Dans un télégramme diplomatique, on peut comprendre quelque chose qui évolue, que signale un diplomate avec la prudence qui est son charme. Et je ne crois pas à la pénétration de boîtes cryptées, comme vous dites, et tout. Mais vous avez l'exemple des journalistes français, étrangers et autres qui ont utilisé des tas de fuites de Panama ou d'ailleurs.
Sur la fraude fiscale.
Mais on n'a pas le personnel pour mettre du monde sur ce genre d'affaires. On n'a pas.
Donc c'est le renseignement humain avant tout?
Ben oui, c'est le renseignement humain. Et puis les relais qu'on peut trouver, c'est tout ce qu'on a dans nos carnets, qu'ils soient en numérique ou qu'ils soient sur les petits agendas.
Mais pour faire une question peut-être un peu provocatrice, est-ce que vous ne craignez pas qu'aujourd'hui, pour vous espionner, il n'y ait plus besoin de venir avec des faux plombiers installer des micros dans vos locaux, mais il suffit simplement d'écouter à distance vos téléphones, vos mails, tous vos échanges? Et ça, de ce point de vue-là, est-ce que le canard est assez protégé?
Il faut être prudent. On doit protéger nos sources. Et plus vous avez de sources, disons, dans la magistrature, dans l'économie, dans le politique, dans les milieux d'opposition, dans les milieux syndicalistes, dans les milieux des services, ou de la diplomatie ou autre, plus vous avez de sources qui, à un moment donné, peuvent se déclencher et tout. Parce que les sources ne sont pas forcément de votre paroisse ou autre, sont des gens qui réagissent à un moment donné. Ça a été le cas quand on m'a dit il y a des 6000 faux électeurs dans le 5e et le 6e. C'est un haut fonctionnaire qui n'a rien d'un type gauchisant ou autre, mais qui trouvait ça sans doute plutôt effarant et qui était plutôt du bord de ceux qui pratiquaient la recherche des faux électeurs.
On est à l'époque Tibéri à Paris.
Tibéri Chirac. C'est une affaire intéressante, importante, qui va mettre 16 ans à être jugée d'ailleurs. Hein. Bon, là aussi, la justice, c'est parfait. Mais je crois plus en cette forme de renseignement, et elle continue d'être pratiquée par les confrères, hein. Que ce soit au JDD, Libération, au Monde. Alors, si on peut s'adjoindre d'autres façons de rechercher l'information et de la piquer, en fin de compte, bravo.
L'information, elle se pique?
Non, elle se pique pas. Elle peut se voler, mais faire attention, parce que si je vole dans le bureau d'un diplomate, des télégrammes diplomatiques, par exemple, je vais mettre en cause son voisin ou lui-même. Dans le tiroir, il y a tout. Donc, il ne faut pas. faut que la fuite soit saine. Et si elle n'est pas saine, vous risquez de mettre en cause la carrière d'un fonctionnaire ou autre. Et ça, c'est pas le rôle du journal. Toute source doit être protégée. Et justement, les gens qui ont fait des enquêtes sur nous croyaient qu'on payait des fonctionnaires pour aller fouiller le bureau voisin du fisc pour nous sortir des feuilles d'impôts. Complètement con.
Il y a des responsables politiques qui cherchent vos sources, Claude Angéli. Il y a aussi ceux qui sont vos sources. Il y a par exemple un jour Nicolas Sarkozy qui vous confie posséder un dossier sur Dominique de Villepin, son grand rival.
Ça, c'est une affaire plus simple dans la mesure où c'est un bavardage. Et finalement, je n'en sais pas plus. À l'époque, les relations entre Sarkozy et Villepin étaient effroyables. Qu'est-ce que voulait Sarkozy ? Peut-être que je répercute des choses comme ça. Toujours est-il que je n'ai jamais vu un dossier arriver sur ce sujet. Ça m'est arrivé souvent dans le métier. Il y a des hommes politiques qui veulent que des choses circulent comme ça. Par exemple, les hommes de Pasqua. Les hommes de Pasqua que je voyais quand Pasqua était ministère de l'Intérieur, il y avait un ancien Delta OAS, il y avait un ancien du régiment de choc, là, dépendant des services secrets, il y avait Marchiani, tout ça. Et ils me disent, Mitterrand, c'était juste avant l'élection de 88, où Mitterrand va être élu, Mitterrand a donné de l'argent au Hezbollah pour qu'on ne nous rende pas les otages français qui étaient détenus au Liban, par le Hezbollah notamment. Ah, j'ai dit, écoutez, si vous avez des informations là-dessus, moi, je publie, hein, des preuves, moi, vous les donnez. Il se passe 3 semaines, 1 mois, Mitterrand est réélu, Chirac battu. Alors après toutes les affaires qu'il y avait eues sur les socialistes, Mitterrand avait 54 et Chirac 46, ce qui était énorme. J'ai fait un article, les Pasqua Boys ont affirmé détenir des preuves sur l'implication de Mitterrand pour empêcher le retour des otages. Ils en ont parlé à plusieurs journalistes, y compris au Canard. Je racontais l'histoire. Mais vous croyez qu'ils m'ont fait un reproche ? Aucun.
Il y a une autre raison pour laquelle le Canard enchaîné est un média atypique, c'est que vous gagnez de l'argent. Et ça, dans la presse écrite, par les temps qui courent, c'est extrêmement rare. Vous avez même des réserves assez importantes. Vous les publiez chaque année dans votre hebdomadaire. D'ailleurs, en ce moment, nous sommes rue Saint-Honoré, dans le centre de Paris. Et vous êtes l'un des derniers grands médias qui n'a pas déménagé en dehors du centre de Paris, en périphérie, pour des raisons économiques. Sur ce modèle particulier, au Canard enchaîné, pas de publicité, pas d'actionnaire extérieur, c'est un modèle, selon vous, durable ?
Oui, je vois pas pourquoi il durerait pas. En plus, le journal vaut 1,20€, il n'a pas été augmenté depuis le passage à l'euro. Ce qui est peut-être une petite erreur, moi c'est ce que je dis depuis longtemps, parce que le dépositaire, il gagne moins.
Les kiosques ?
Oui, et donc, il faudrait peut-être l'intéresser un peu plus. Ça viendra peut-être, non ? Mais comme le journal gagne de l'argent, on me dit toujours, mais écoute, on publie notre bilan, on gagne de l'argent, alors tu veux qu'on augmente le journal. Je dis non, mais de 10 centimes ou de 20 centimes, c'est pas... Bon, pour l'instant, ça n'est pas fait. Il n'y a pas de publicité, il n'y aura pas de publicité dans ce journal. C'est un engagement des créateurs et qui a été repris par tous ceux qui ont travaillé. Il n'y a pas de pression publicitaire et le journal gagne de l'argent. Bon. Il y a un bon matelas, il a permis d'acheter cet immeuble, et y compris d'acheter 2 étages de l'immeuble à côté pour pouvoir agrandir, casser les murs de soutien, et on a encore agrandi le journal. Bon, on est au centre de Paris, pourquoi on en partirait ? Si vous voulez nous voir, c'est plus sympathique de venir là que d'aller courir à Ivry, à Saint-Denis ou ailleurs.
Où se trouvent maintenant la plupart des sièges de...
Mais oui, parce que c'est cher. Même c'est un acquis, bon... On défend les acquis au journal. C'est pas parce qu'il y avait un rédacteur en chef. C'est parce que le journal, il a des lecteurs.
Elles sont de combien aujourd'hui, ces réserves ?
Je ne saurais pas vous dire. Regardez, chaque mois d'août, on les publie.
je crois avoir vu le chiffre de 130 millions d'euros.
C'est possible, et c'est peut-être un peu plus. Non, non, c'est confortable.
Vous êtes dans l'opulence ?
Non, mais il n'y a pas de dividende. Hein. Nous sommes actionnaires, et il n'y a pas de dividende versé chaque année. À aucun membre de la rédaction.
Ce sont uniquement des salaires.
Oui. Et puis, quand on s'en va, on rend ses actions. Quand j'ai arrêté d'être rédacteur en chef, j'ai rendu mes actions. On m'a dit, non, tu en gardes une, parce que comme ça, tu viens en réunion et tout. Et je suis toujours actionnaire.
Combien est payé un journaliste du Canard Enchaîné ?
Actuellement, je ne pourrais pas vous dire. Ça a été très confortable. Ça l'est un peu moins maintenant. À l'ancienneté, vous gagnez.
On parle aussi beaucoup des fêtes qui sont données chaque année par le Canard Enchaîné. Est-ce que vous pouvez nous les décrire, à quoi elles ressemblent et à quoi elles servent ?
Alors, ces fêtes, elles servent à inviter quelques centaines de personnes qui ne sont pas toutes intéressantes, mais ça fait partie du jeu. Il y en a, je me demande pourquoi elles passent par là. Il y a un côté people, tout ça et tout. C'est la vie. Puis il y a des gens qu'on aime bien, on mange bien, on boit bien. C'est une tradition.
Elle remonte à quand ?
Ben écoutez, moi j'ai toujours connu ça. Et avant, ça se faisait rue Jean Goujon, dans la salle des ingénieurs, ou je sais pas quoi. C'était carrément le métro.
Quand vous disiez qu'il y a des gens qui sont pas forcément utiles au Canard Enchaîné, ça veut dire quoi ?
Ben, qu'ils sont inintéressants.
Il y a un côté mondain ?
Si c'est ça les mondanités, mon Dieu, non. Ben, j'ai connu une époque où il y avait Claude Sautet qui venait, ou des choses comme ça. C'était bon, il est mort. Tout le monde n'est pas... Mais il y a des magistrats qu'on aime bien, des avocats, il y a des journalistes, y compris qui ne sont pas de notre bord. Ça, c'est normal. Vous savez, il y a toujours des personnes sur les trottoirs qui vous demandent « Vous allez au Canard Enchaîné quand on est près de la maison de l'Amérique latine, vous n'avez pas une invitation pour moi ?» Une réputation, on mange bien, quoi.
Vous décriviez l'aspect PME, petite et moyenne entreprise, du Canard Enchaîné. Est-ce qu'il y a des représentants du personnel, des représentants syndicaux au sein de l'équipe ?
Non. Non, non.
Pourquoi ?
Ben, je pense que c'est un tort, mais il n'y en a pas. Il faut dire que problème de revendication, c'est pas aussi violent que ça peut être ailleurs. Mais je trouve toujours qu'on doit respecter les règles.
Il n'y en a pas eu parce qu'il craignait le rédacteur en chef ?
Alors là, ceux qui me craignaient, c'est parce qu'ils remettaient leur article trop tard. Et pas... Mais j'ai toujours milité pour la publicité sur les salaires. Et que tout soit dit.
Mais là-dessus, vous n'avez pas été suivi ?
Non.
Pourquoi ?
Mais je crois que les gens n'aiment pas dire toujours que ce qu'ils gagnent. Alors qu'il n'y a pas à avoir honte.
Vous pourriez dire, vous, combien vous gagnez ?
Moi, je l'ai dit déjà.
C'est combien ?
Ben, je l'ai dit à la télévision, d'ailleurs. Ça m'a été reproché par la comptable, parce qu'elle m'a dit, tu aurais dû dire net, et tu as dit brut.
Alors, si on précise que c'est brut, par exemple ?
Ben oui, je ne sais pas, mais j'ai payé 55 000 euros d'impôts. Et ça devait tourner autour de 15 000...
15 000 euros mensuels ?
Oui.
Brut ?
Oui, oui, brut. On a vu brut ou pas brut, je sais plus, ça.
C'est l'ordre de grandeur.
C'est l'ordre de grandeur. Maintenant, je suis à la retraite et je touche ma retraite, très confortable, puisque j'ai cotisé plus de 50 ans. Et j'ai une pige qui est de 2 400 euros mensuels. Oui, c'est pour un travail hebdomadaire, c'est pas grand-chose. Mais c'est aussi normal, il ne faut pas que je gagne plus en étant à la retraite qu'avant.
Le Canard Enchaîné a aussi été critiqué, Claude Angéli, pour le peu de présence féminine parmi les journalistes. À quoi cela tient et est-ce encore le cas ?
Non, c'est beaucoup moins le cas maintenant. Non, vous avez plusieurs femmes pigistes et plusieurs femmes rédactrices CDI permanentes. Non, ça a été Avant, c'était le hasard et c'était l'absence de candidature et puis un petit côté machiste, quoi, qui devait jouer. Mais ça n'était pas... C'est pas mon cas. Mais c'est vrai qu'il y a eu des expériences aussi qui n'étaient pas bonnes. Il y a des filles qu'on a embauchées, puis ça n'allait pas.
Par exemple.
Et des garçons aussi. Non, je ne dirais pas de nom.
Mais... Non, mais les exemples anonymisés, si j'ose dire.
Oui. Bah oui, qui n'étaient pas des bonnes enquêtrices, qui n'étaient pas des bonnes journalistes, qui n'étaient pas. Oui, parce que je pense, j'ai toujours pensé qu'il fallait prendre les gens à l'essai. Ce qui n'a pas toujours été le cas. Et c'est regrettable.
En tant que rédacteur en chef, pour vous, la méthode, c'était de prendre à l'essai, ce n'était pas forcément les diplômes ou le CV.
Les diplômes... Non, il y a le rédacteur en chef politique actuellement, Jean-François Julliard. On l'a pris comme stagiaire. Et on l'a gardé. D'ailleurs, quand il allait finir son stage... Les jeunes femmes qui étaient au secrétariat, ils ont dit, vous allez le garder. Et je dis, mais non, pas question. Et elles m'ont engueulé. Et bien entendu, on l'a gardé, parce qu'il était très valable. Et maintenant, il a suivi son cours, et il est rédacteur en chef. Voilà.
Vous savez que dans la plupart des médias, aujourd'hui, on n'embauche plus des candidats qui ne sont pas passés par des écoles de journalisme reconnues.
Ah oui, ben j'aurais pas été embauché. Hein. Non. Mais c'est bien, mais... Est-ce que parfois ils sont pas un peu trop formatés ?
Vous tenez à cette méthode d'embauche ?
Je crois... Non, la méthode d'embauche au Canard, c'est avoir fait ses preuves ailleurs. Jean-François, il n'avait pas fait ses preuves, mais il fallait prendre un stagiaire, on a pris un stagiaire, et puis finalement ça marchait très bien. Mais avoir fait ses preuves ailleurs, comme ça on voit comment il écrit, tout ça et tout, alors des fois ça trompe. Parce que les gens sont réécrits. Ça, j'ai des exemples. Hein. Mais enfin, on voit si c'est un... J'ai employé un terme un peu familier, un bon chien de chasse. Parce que l'information, il faut quand même la chercher, la traquer, et l'écrire.
Justement, Claude Angély, la pyramide des âges au sein du Canard enchaîné, elle est plutôt chenue. On peut le dire comme ça, par rapport à d'autres rédactions. Pour vous, les jeunes journalistes ?
Oui, des jeunes journalistes,
pas à la hauteur.
Oui. Non, c'est vrai que... Non, elle n'est pas chenue. Elle est plutôt autour de 35-40 ans, quand même. 40 ans, peut-être.
Vous l'avez rajeunie ?
Moi, non. Non. C'est la vie. C'est la vie. C'est l'ensemble des journalistes. On échangeait quand même beaucoup avant d'embaucher quelqu'un. Là, ça manque un peu. Faudrait quand même un petit peu embaucher. Ça va se faire, sans doute. Mais c'est pas chenu. Alors c'est vrai que moi, je le suis, mais qui faire ?
Ce qui est frappant aussi, Claude Angély, c'est la maquette du journal, qui est assez inamovible. Il y a cette grande feuille repliée, imprimée de rouge et de noir. Je regardais tout à l'heure la sorte de frise dessinée qui ornent les pages du Canard enchaîné, ce sont les visages de politiciens dessinés. Et on trouve encore Jospin, Raffarin, le pape Benoît XVI, le précédent souverain pontife. Est-ce que finalement vous n'êtes pas un peu conservateur au Canard enchaîné ?
Non, c'est simplement quelqu'un a proposé de la renouveler. Parce qu'y compris, il y a des personnages qui n'ont plus aucun intérêt, qu'on ne reconnaît peut-être pas. On reconnaît toujours des acteurs... puis Cabu et tout ça. Mais c'est vrai qu'il faudrait peut-être changer un petit peu. C'est les pages 2, 3, 4, 5. Hein, voilà. Mais c'est pas conservateur, c'est un peu la flemme. Hein. Puis en plus, elles sont belles, ces frises. Mais à mon humble avis, il faudrait les revoir. Mais en même temps, c'est tout Cabu qui l'a fait. Si vous voulez, il y a quand même un petit peu du souvenir de Cabu. Mais à mon avis, il faut passer dessus, quoi.
Cabu qui est tombé dans l'attentat de Charlie Hebdo.
Ben oui, Cabu. Le mardi, on travaille au journal et on s'en va. Et le mercredi, il meurt, quoi. Cabu parti, d'abord, c'est une absence. À l'atelier de composition, il avait une table où il a porté les ciseaux de couture de sa femme, Véronique, et où il dessinait... à la demande, et puis il avait quelques idées, tout ça, et tout, bon. Un dessinateur de talent. Et cette table, personne n'est venu s'y asseoir. Et après, on a changé la disposition des tables pour qu'il n'y ait plus ce vide. Cabu était un bon dessinateur. On avait Pétillon qui, malheureusement, a pris sa retraite et est mort. Il y a de bons dessinateurs comme Pancho, Aurel. Mais il n'y a pas l'apport des dessinateurs qu'il y avait auparavant.
Pourquoi ?
Je ne sais pas. C'est des dessinateurs qui pensent que le gag est dans le texte et pas forcément dans le dessin. Ou qui pensent qu'il est dans les deux. Et puis, des fois, le manque d'audace ou le... Je ne sais pas, c'est une période, hein, je dirais. Hein. Même des gens comme Plantu ne sont pas aussi bons qu'avant, c'est évident. Ou il fait trop de choses, ou il fatigue, j'en sais rien, mais... Avant, Plantu, on ouvrait le monde et on regardait le Plantu. C'est plus le cas. Et je regarde dans la presse, je ne vois pas de dessinateur qui m'enthousiasme. Chapat, on l'a embauché finalement, c'était une bonne recrue. Il dessine en Suisse, il dessine pour la presse américaine, un peu moins maintenant puisque le New York Times ne veut plus de dessin. Mais ça, c'est une bonne recrue. Un dessin, c'est vrai que c'est parfois un éditorial, quelque chose qui vous remplace un article. Il n'y a plus besoin de dire quelque chose. Le gag est réussi, c'est merveilleux, et ça fait parler. Et ça, c'est la réussite du dessin de presse. Et c'est vrai qu'il n'y a plus beaucoup de journaux qui utilisent le dessin de presse. Libération, Willem, Rançon, Le Parisien, L'Express avec Plantu, mais nous, on est les seuls à publier autant de dessins. Charlie en publie aussi, oui.
Est-ce qu'il y a un dessin que vous avez regretté d'avoir publié ? Est-ce qu'il y a un article que vous avez regretté d'avoir publié ?
Non. Non, ça me vient vraiment... Là, on peut dire que tel article n'était pas bon, tout ça, tout. Tel dessin n'était pas très bon. Non, ça c'est... Non, des choses fausses, c'est plutôt dans la nuance. Mais on les a critiquées. Il y a le pan sur le bec qui se pratique quand même. Mais rien eu de détestable, de scandaleux publié dans le Canard. C'est banal, je vous dis. Vous avez du mal à penser que le journal est pas un mystérieux. Mais là, Cabu nous en voudrait pas de changer un peu tout ça, quoi. Mais sinon, le format, tout ça... Le Canard peut pas être le format de l'Express ou de l'Observateur. C'est pas possible. Ça colle plus.
L'avenir du Canard enchaîné et le vôtre, Claude Angéli, c'est de tout cela dont nous parlerons dans le 5e épisode. À demain.
À demain.
Vous retrouverez demain la suite de cette rencontre de Frédéric Saïs avec Claude Angéli. À voix nue, réalisation Laurent Polleret, prise de son Sandrine Malon, attachée de production Daphné Abgral, coordination Sandrine Trainer. À voix nue se réécoute et se podcast sur franceculture.fr.